avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Et bonjour tout le monde, bon jeudi ensoleillé à 10h02. J'espère que ça se passe bien de votre côté, que le début de journée a été paisible. Intéressant aussi au travail. Je veux dire, il y a personne qui a envie d'aller travailler puis de trouver ça long puis de trouver ça plate. Mais ici, ça ne le sera pas. Pourquoi? Parce qu'on a brassé les habitudes. J'ai avec moi Louis Mathieu, notre fameux stagiaire qui mesure 7 pieds 9. C'est pas une farce, ça, en passant. Honnêtement, il y a de la misère à passer dans le cadre de porte. Puis quand il arrive en studio, sa tête frôle le plafond suspendu. Salut, Louis-Mathieu, tu peux dire bonjour? Tiens, je vais te déstabiliser comme il faut.
Salut, ça va?
En forme?
Oui, très en forme.
Très en forme. Donc, on a changé mes habitudes, puis les habitudes sur Twitch aussi, tout le monde est comme, Pascal, t'es pas à la bonne place, t'es pas... Salué en grand nombre, Louis-Mathieu, dans leur CV, qui m'accompagne, parce que on lui fait faire ce que j'ai appris tout récemment, lui, au tout début de sa carrière. Donc, il est en avance sur tout le monde en radio. Soit gérer une console, il m'accompagne pour les prochains jours, puis demain, on va lui donner un cet exercice à faire avec nous. Je sais que ce n'est pas un exercice pour lui, là, mais vous allez voir, demain, il va participer à leur CV. Bienvenue dans ce petit moment ensemble, notre meeting quotidien. Je le sais que plusieurs le mettent à l'horaire, puis j'adore ça, vous montrer vos genres d'horaires avec de 10 à 11, le petit moment booké qu'on a ensemble. Et si vous voulez faire de cette expérience une expérience encore plus décuplée, twitch.tv/blvd/FM. Ouais, ben c'est des caméras en studio et vous allez pouvoir voir notre grand de 8 pieds 4 qui est derrière la console. Alors,
c'est les bons chiffres.
C'est 8 pieds 4, je pense que c'est honnête. Hein?
Oh, oui,
c'est très honnête. À l'extérieur, c'est 7 degrés, alternance soleil-nuage, mais on a vraiment un superbe soleil aujourd'hui. Là, je sais qu'il y a quelques personnes qui devraient faire leur première randonnée de moto dans les prochains jours. Assurément, il faut être un peu prudent parce que les chemins ne sont pas nettoyés, mais avec le soleil qu'on aura là, pour... dimanche, lundi prochain et aujourd'hui. Je sais que Reg dit que samedi va faire beau. Moi, ce que je vois, ce sont des nuages. Mais malgré tout, il n'y aura pas de pluie. Et c'est pas mal autour de 10 degrés pour tous les prochains jours, jusqu'à mardi prochain facilement. Donc, le printemps se pointe le bout du nez, mais pas très, très rapidement. Et aujourd'hui, j'aimerais ça revenir sur... mais vous allez voir l'angle et le pourquoi je veux revenir là-dessus. Le budget fédéral qui a été annoncé. Hier, on a jasé avec Jérémy Hio sur tout ça. On a analysé un peu ce budget-là. On a vu qu'il y a était beaucoup plus à gauche sur l'axe politique. On a vu aussi les partis commencer à se diviser au fédéral parce que ben, vous êtes peut-être orphelin politique au fédéral. On en parle depuis plus d'un an ensemble, du moins à Boulevard 102.1. Là, je pense que c'est un discours qu'on tient puis qu'on cherche un peu où est-ce qu'on se positionne. On cherche qui est notre parti par prédilection. Quant à avant, c'était quand même plus clair, je pense. Les allégeances de tous et chacun, on était capable de se positionner. Là, il y a comme eu un mélange des genres. On a vu une coalition au provincial avec la coalition Avenir Québec, la CAQ, où plusieurs politiciens se sont rassemblés pour faire un parti. Il a été élu. Là, on voit il y a de la discorde. On ne sait plus trop où se mettre dans tout ça. On ne sait plus trop où est-ce qu'on voit nos valeurs politiques être bien représentées. Et bon, c'était un enjeu dont on a discuté hier avec Jérémy Guillaume, comme quoi on voit que pour la prochaine campagne électorale au fédéral, on place déjà les cartes et on le place aussi avec le budget parce que le gouvernement Trudeau est allé beaucoup plus de gauche sur un point aussi qui a fait réagir. Je vous ai écouté hier, je vous ai lu en masse. On a fait une chronique très longue comparativement à habituellement parce que vous étiez très réactifs, très vocaux, très sur vos claviers par rapport à qui va payer plus. Et on parle des gens qui sont plus en moyens. On parle des mieux nantis. On va aller chercher plus dans ces poches-là. Mais est-ce que réellement, on va chercher plus dans les poches des mieux nantis? On a fait un exercice pas très ficelé et on se rend compte au final qu'on va aussi aller chercher dans les poches de ceux qui ont économisé pendant de nombreuses années, qui ont acquis peut-être de l'immobilier, entre autres, et qui ont mis leur fonds de pension, si on veut, plutôt dans une autre façon de faire qu'à la banque et dans le temps, mais il y a des gens qui ont acheté des duplex, qui ont pris toutes leurs économies d'une vie, là, et qui sont à l'aube de la retraite, c'est leur fonds de pension. Et en raison du nouveau budget fédéral, bien, il y a un impact fiscal important qui est à mentionner, qui va ruiner un peu ces projets-là. Mais il y a quelqu'un qui est allé dans cette branche de commentaires-là, et c'est Rodolphe Osny. On va aller lui jaser un peu plus tard à l'émission. C'est la première fois qu'il fait une parution, mais je le suis beaucoup. J'entends ses commentaires et il est critique par rapport à ça. Donc, on va avoir un discours un peu différent par rapport à ce qu'on entend dans les médias, mais on va vraiment focusser sur cette portion-là de gens qui seront pénalisés par le nouveau budget fédéral et qui ne sont pas des mieux nantis. C'est juste qu'ils ont fait les choses différemment et qui voient leur rôle financier être extrêmement changé. Est-ce la bonne chose à faire? C'est pas mal la question qu'on peut se poser dans tout ça. Merci d'avoir choisi l'heure CV. C'est l'heure d'aller se couler un petit café, de se prendre une boisson chaude, de bien s'installer. Je rappelle, Louis Mathieu est derrière la console, notre stagiaire. J'aille ça dire ça parce que ça reste des gens qui sont formés pour faire le métier. Mais c'est ça, on a des stagiaires ici puis on est bien content de les avoir. Et c'est Rouge Pompier, vendredi dans vos oreilles à Boulevard 102.1. Merci d'avoir choisi l'heure CV.
Avec Pascal CV.
Rouge Pompier, et c'était pas Blink 182, mais pourquoi je mets de la lumière sur Blink? Ben, c'est excellent, mesdames et messieurs. Mais aussi le fait qu'on a un concours vraiment, 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 vraiment intéressant à Boulevard 102.1. Si vous entendez du Blink 182 sur nos ondes, dépêchez-vous d'aller sur le blvd.fm. Pour ceux qui connaissent la routine parfaite, vous allez sûrement fâcher que je le dise et donc attire l'attention là-dessus et avoir peut-être un plus grand bassin d'auditeurs qui a la chance de gagner ça. Mais c'est le but, en fait. On veut vraiment qu'il y ait plein de participation. Tous ceux qui nous écoutent, que ce soit une fois de temps en temps, que ce soit à chaque jour, on veut que vous entendiez ce message-là. Quand Blink 182 passe, vous notez l'heure à laquelle la chanson est passée et vous allez vous inscrire au blvd.fm pour avoir la chance de partir sur le dos de Boulevard 102.1 et sur le bras aussi de Variété 2020 à San Francisco, voir Blink 182 dans leur tournée de rassemblement à nouveau et aussi aller voir un match de balle des Giants contre les Blue Jays. Ça s'appelle le Rock and Ball. Ça vous rappelle un peu hein, le concours du Rock and Puck qu'on a fait l'an dernier? Ben c'est ça. On vous envoie encore les tripeux en voyage avec l'hébergement, le vol et les activités comprises en étant aussi facile que d'écouter la programmation que vous écoutez à tous les jours, BLVD 102.1. Bonne chance à tous et je vous rappelle que c'est jusqu'au 26 avril pour participer. Vous avez le droit de rentrer deux fois par jour, une heure à laquelle Blink est passé. Et dans le show de Gravel, dans le retour, on annonce des finalistes à chaque jour. Fait que c'est très rapide et efficace comme concours. Là. C'est très sincèrement à l'écoute de Boulevard. On prend une pause, une petite pause. On revient rapidement avec Rodolphe Osny, sa première apparition aussi à l'émission dans leur CV parce qu'il est dans un autre discours que celui qu'on entend du côté du budget fédéral qui a été déposé. Il y a des gens qui ne sont pas mieux nantis en société qui seront pénalisés économiquement par ce nouveau budget déposé. On parle de gestion de dette aussi. On va aller parler avec lui. Vous allez voir, c'est très intéressant de l'entendre.
Encore une fois, leur CV avec Pascal CV.
Il n'y a rien à signaler sur les réseaux routiers comparativement à hier où ça a été une journée assez dramatique et tragique hein, avec l'accident sur Henri IV. Ça a mené un peu tout ce qu'on a connu dans la circulation courante de la journée. Mais là, c'est beau, ça roule, c'est vert partout, c'est fluide. Avec le soleil aussi, c'est une belle journée pour faire de la route si jamais vous en avez à faire avec votre travail ou tout simplement dans votre vie quotidienne. Budget fédéral. Waouh, on a jasé hier, je sais ce que vous allez dire. C'est quelque chose d'important, mais des fois qui ne vous touche pas nécessairement. Et là, d'autant plus que c'est un budget qu'on a qualifié de gauche. Donc, un petit peu plus dans les filets sociaux, un petit peu plus dans on va aller chercher de l'argent là où on pense que c'est intéressant de le faire, soit auprès des mieux nantis. On va aller chercher plus d'impôts, on va aller taxer un peu plus de choses. On va essayer de... ramasser nos déboires économiques des dernières années dans les poches de certains contribuables et non dans des stratégies gouvernementales et politiques. Moi, c'est ce qui me fascine. C'est correct, c'est un exercice comme un autre. Le gouvernement qui est en place, c'est le gouvernement Trudeau. La ministre de l'économie, c'est Chrystia Freeland. Elle peut faire ce qu'elle souhaite. On l'a élue au Canada. Le hic étant, lorsqu'on prend position dans une affaire comme un budget fédéral pour un pays, il faut ficeler tout comme il faut. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de crack. Et si on vise les mieux nantis, certaines personnes qui ont plus d'argent dans la société, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de déboire, il n'y aura pas d'oubli et il n'y aura pas de choses qui vont tomber justement entre deux chaises. Hier, on en parlait de façon quand même assez superficielle de ces gens qui seront catégorisés comme mieux nantis parce qu'ils ont des avoirs particuliers, comme en immobilier, mais qui n'ont pas plus d'argent que d'autres. Vous avez vu peut-être le texte dans le Journal de Québec sortir aujourd'hui, mais on a trouvé certains protagonistes qui sont visés par tout ça, des gens qui ont un duplex, qui ont mis toutes leurs économies durant toute une vie et qui sont à l'aube de la retraite. Ils ont un fonds de pension de 28 000 $ en raison du budget fédéral maintenant parce que, ben justement, ils sont catégorisés comme étant les plus riches vu le nouvel impôt fédéral. Oh, là, ça, il faut en jaser, parce que je pense qu'il y en a qui ont pris une sacrée débarque, je vais le dire comme ça. Et pour le faire, j'ai écouté énormément de commentateurs politiques et il y en a un qui a attiré mon attention hier. C'est sa première apparition dans leur CV. Il s'appelle Rodolphe Osni. Il est au bout du fil et c'est un ancien conseiller au gouvernement Hopper. Bonjour, Rodolphe.
Bonjour. Bonjour, Québec.
Oui, bienvenue sur les ondes, effectivement, de la ville de Québec. Rodolphe, c'est quelque chose qui est venu te chercher énormément hier. Est-ce que c'est parce que tu es concerné par tout ça ou c'est parce que tout ce qui est valeur économique, aller chercher les bonnes cibles, ça tient à cœur depuis de nombreuses années puisque tu as travaillé au sein d'un gouvernement qui avait un petit peu plus d'économie comme priorité?
Oui, écoutez, non, ça me touche pas personnellement, mais moi, ça m'a... Écoute, j'ai été estomaqué quand j'ai vu ce budget, puis juste pour mettre en contexte, on est en train de dire à des gens qui ont fait des choix, c'est-à-dire qu'on payait des impôts, puis ensuite qu'ils se sont bâtis une épargne. Puis avec cette épargne-là, ils ont décidé, par exemple, d'acheter un bloc appartement, un duplex ou quoi que ce soit, dire « ça, ça va être mon bas de laine parce que j'ai pas de fonds de pension, puis je vais le payer sur 20 ans ou sur 30 ans, et quand je serai le temps de prendre ma retraite, par exemple, ben, soit je vivrai des revenus de ça une fois que ce sera payé, ou peut-être je vais le vendre et ce sera avec ce capital-là que je vais faire ma retraite. Et là, dans le budget Freeland qui a été déposé mardi, on vient de dire que ces personnes-là qui ont fait le bon choix, qui ont joué par les règles, qui avec leurs économies ont investi, ils vont devoir payer plus. Mais le gouvernement a dit, on va taxer les riches, on va taxer les riches. Il y a deux commentaires que j'ai envie de faire sur ça. Premièrement, dire qu'on va taxer les riches, c'est une diversion. Ça veut dire, on dit ça, c'est comme le petit élément qui brille pour pas qu'on regarde que le gouvernement Trudeau est incapable de contrôler ses dépenses, que le gouvernement Trudeau dépense trop et qu'on ne regarde pas la dette et le déficit. Et ensuite, il dit, mais quoi, vous êtes contre qu'on taxe les riches? Puis quand on fouille un peu, on est en train de dire, mais attendez, là, une personne qui a acheté un bloc appartement il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui coûtait même pas 200 000 $ puis que maintenant, ça vaut 600, 700, 800, 1000 $ Pourquoi vous êtes en train de les taxer plus? Ils se sont juste protégés contre l'inflation. Ils l'ont payé petit à petit avec de l'argent après impôt. Et là, le gouvernement Trudeau va chercher de l'argent dans ses poches de ces personnes-là, comme l'article du Journal de Montréal aujourd'hui, un 20, 30 000 $ Mais ces personnes-là, ils sont pas riches. C'est juste qu'ils n'ont pas de fonds de pension et c'est leur bas de laine. Mm-hmm. Et ce qui me choque énormément, c'est que on ne peut pas comme ça changer les règles. Quand on va pour faire un investissement comme ça d'une vie, d'une certaine façon, puis qu'on le paye sur 10, 15, 20 ans, on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, dans un budget, à la troisième, deuxième année d'un troisième mandat, dire comme ça, ah, voici, on change les règles, vous devez payer plus, puis vous devez le faire, sinon vous, au mois de juin, les règles ont changé. Ce n'est pas comme ça qu'on prend une décision d'une vie, d'un gouvernement, qui a simplement trop dépensé, puis que maintenant, qui commence à dire, OK, où est-ce que je vais aller taxer, puis qui ose nous dire, oui, on taxe les riches, on taxe les riches, qu'on est en train de voir que ça ne concerne pas que les riches, bien au contraire.
J'ai tellement de questions, Rodolphe. C'est impressionnant quand même, cette mesure-là, pour plusieurs raisons. La première, lorsque tu fais un budget, tu analyses, tu parles avec des gens, tu as des experts autour de toi. Et là, de catégoriser comme ça ces gens-là de personnes riches, quand ce sont des gens qui ont décidé de faire juste autrement, de ne pas placer nécessairement des montants, bien, peut-être que oui, mais quand même, ils ont décidé d'acheter en immobilier en se disant, bien, c'est une valeur qui est sûre à ce moment-ci, c'est quelque chose qui va encore être dans mes poches. Plus tard, lorsque je serai à la retraite où je voudrais d'autres projets, je pourrais le vendre et je m'assurerais d'avoir fait un surplus monétaire intéressant. Le risque est là. Le risque existe toujours. Là. Il peut se passer n'importe quoi puis on peut perdre cet investissement immobilier-là. Mais un risque qui provient, qui arrive du gouvernement et qui te ramasse financièrement comme ça, je me demande comment est-ce qu'on peut pas y avoir pensé. Comment est-ce que du côté du gouvernement Trudeau, de Chrystia Freeland, on peut avoir échappé ce genre d'histoire-là, ce genre de situation-là où tout simplement énormément d'individus-là qui ont choisi de faire leur fortune par eux-mêmes et non nécessairement par des placements X. Comment est-ce qu'on peut échapper ça?
Ben écoute, c'est la réalité politique du gouvernement Trudeau qui, pour se maintenir au pouvoir, est obligé d'aller chercher le support du NPD. Et ce budget qui a été écrit, c'est pas un budget libéral, c'est un budget du NPD, puis on sait très bien que le NPD dit qu'ils veulent taxer les riches. Puis après, ça devient une sorte de marketing politique où on dit, ah, attendez, regardez, on va taxer les riches. Mais quand on creuse, on n'est pas en train de taxer les riches. Donc, ça veut dire peut-être que oui, il y a des personnes qui sont très riches puis qui ont fait ce genre d'investissement, mais comme on est en train de le découvrir, avec le filet, ils sont en train de prendre des gens, des autres personnes qui ne sont pas riches et qui vont maintenant devoir payer plus d'impôts. Et le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement dit « Ah, c'est un budget d'équité générationnelle ». Donc, attendez un instant, là. Quelqu'un qui a économisé toute sa vie, puis que maintenant qu'il va partir à la retraite, puis qu'on lui dit « Tu dois payer plus », c'est ça de l'équité générationnelle? Et d'un autre côté, quand on dit « Attendez, ils font ça, pourquoi ?» Parce qu'ils ont dépensé 20-30 milliards de dollars, par exemple, on l'a vu là des 2-3 dernières semaines. Justin Trudeau, tous les jours, a fait des annonces, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Puis là, maintenant, ben, on regarde comment payer. Mais quand on regarde la dette actuellement du Canada, il y a un chiffre dans ce budget-là qui fait trembler. C'est 54 milliards de dollars. C'est les frais d'intérêt de la carte de crédit du gouvernement du Canada. Et c'est en train de se dire, mais attendez, là, c'est pas de l'équité générationnelle quand, un, on va prendre de l'argent à des gens qui sont pas soi-disant si riches que ça, puis, deuxièmement, on est en train de laisser une dette massive et des frais d'intérêt massifs à la prochaine génération. Donc, le problème, c'est que le gouvernement essaye d'acheter des votes et essaye d'acheter le soutien du NPD pour se maintenir au pouvoir avec cette mesure que moi, je considère qu'est une diversion du marketing politique pour dire, regardez, vous êtes contre taxer les riches, mais la vérité qu'on voit tous les cas qui sont en train de sortir, ce n'est pas juste des riches, c'est juste des gens qui ont respecté les règles, qui ont payé leurs impôts, qui se sont fait un petit coussin, puis que là, maintenant, on leur dit, on va les piger dans vos poches.
On a fait ça différemment. Là-dedans, il y a des gens qui ont des petites entreprises, oui. Là-dedans, il y a des enseignants. Là-dedans, il y a des... On se parlait hors d'onde. Il y a des coiffeurs. Il y a des gens qui ont décidé de mettre cet argent-là à d'autres endroits. Ça fait tellement réagir. Rodolphe, il y a des gens qui commencent à écrire aussi pendant la chronique par rapport à des gens en immobilier qui vont juste fractionner leur vente pour ne pas se faire avoir encore plus par le gouvernement, qui changent les règles en cours de route, qui sont surpris. On dit, le pire, c'est que ce sera encore plus facile pour certaines personnes vraiment riches de faire ça. Donc, la classe moyenne va peut-être encore payer en supplémentaire. Est-ce que tu crois de ton côté que ça va annuler l'effet on essaie d'épargner économiquement la classe moyenne en ce moment?
Oui, moi je crois. Bon, premièrement, j'ai un grand doute sur le fait que le gouvernement dit qu'il va aller chercher 20 milliards de dollars avec cette mesure. Exactement pour le point, il y a des gens qui vont faire ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Il y a des gens qui vont payer des comptables, des avocats, puis etc., et faire 50 000 structures différentes pour essayer d'économiser de l'impôt. Mais la classe moyenne, là, les gens qui ont juste acheté un duplex, je ne les vois pas s'amuser à aller appeler PricewaterhouseCoopers ou Deloitte, puis s'amuser à dépenser 10, 20, 30 000 $ pour s'amuser à faire une structure fiscale complexe pour aller économiser 20 000 ou 30 000 ou 40 000 $ Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que moi, j'ai des sérieux doutes à la capacité du gouvernement d'aller chercher plus d'argent pour les soi-disant riches, qui est leur objectif. Et en fait, on va juste pénaliser les gens qui ont joué par les règles. Moi, j'ai utilisé une analogie hier en disant, c'est exactement la cigale et la fourmi. La fourmi, c'est les gens qui ont mis de l'argent de côté. Et la cigale, c'est Justin Trudeau qui dépense tout l'été. Puis maintenant, qui dit à la fourmi, « Ah, ben attends, c'est à toi de payer maintenant. » Puis moi, je trouve que c'est pas correct du tout et que comme on peut pas changer les règles du jeu d'un investissement, encore une fois, quand on achète un duplex ou quoi que ce soit, c'est 20 ans, 15 ans qu'on planifie. On planifie sa retraite. On dit aux jeunes aujourd'hui, planifiez votre retraite, commencez à épargner maintenant. Comment ça se fait qu'on dit à des gens qui ont fait ça il y a 10, 15, 20 ans, allez, aujourd'hui, on change les règles du jeu parce qu'on est dans le trou, parce qu'on a trop dépensé.
Puis on vous ramasse un 30 000 fiscalement parce qu'on a mal ficelé nos choses. Puis en plus, ce sera peut-être des personnes qu'on devra aider socialement avec un filet social dans le futur parce qu'on va les avoir amputés il y a quelques années quand eux n'auraient pas été une charge pour l'État, là.
Oui, puis écoute, moi, à ce que je sache, la dernière élection, est-ce que quelqu'un a parlé de ça? Est-ce que c'était dans le programme du gouvernement libéral qu'on a voté à la dernière élection? Non. Ça veut dire qu'il y a aussi une question de légitimité en termes de c'est bien beau d'aller chercher l'appui du NPD, mais il faudrait réaliser que les Canadiens, ils n'ont pas voté pour que le NPD soit au pouvoir, à ce que je sache. Les gens, ils ont voté pour un gouvernement soi-disant libéral minoritaire. Ils n'ont pas, voté à ce que je sache pour qu'on augmente le gain en capital. Donc, d'un côté, on se demande, mais c'est qui commande? C'est le NPD. Puis si on regarde le nombre de votes, ben, je suis désolé, c'est pas les libéraux, c'est pas le NPD qui est au pouvoir. Puis là, on est en train d'acheter des votes avec notre argent. C'est ça que c'est ça que je trouve qui est inacceptable. Surtout à comme ça, à 3 ans d'un mandat, d'un troisième mandat, allez, on tire un lapin du chapeau.
En terminant, Rodolphe, tu as travaillé comme conseiller sous le gouvernement Harper. Donc, clairement, on est capable de voir que, bon, dans la priorité de l'économie, tu en faisais partie. Ça a toujours été un gouvernement, du moins les conservateurs, reconnus pour ça. As-tu l'impression que ça s'effrite avec le temps? Parce que, bon, nouveau visage au fédéral, Pierre Poilievre qui est là, qui essaie un peu de faire sa business politique contre un Justin Trudeau, parce qu'après ça, je ne parlerai pas des autres partis. Il n'y a rien. On en parle de long en large ici à la radio avec les auditeurs depuis maintenant plus de 2 ans. Et ce qu'on a comme constat, c'est qu'on est un peu tous orphelins politiques parce que j'ai l'impression, et les auditeurs ont l'impression par leurs commentaires, que tous se ressemblent et se rassemblent. On va faire le clin d'œil justement aux libéraux et au NPD dans les dernières années. Finalement, ça a aidé personne. Mais comment est-ce qu'on peut en être rendu où nous en sommes quand avant, les gens qui votaient, ou du moins les contribuables aussi, parce que ça ne veut pas dire que si tu es contribuable, tu as voté pour le parti qui est en place, avaient une meilleure, comment dire, adhésion à un parti, se sentaient mieux représentés, se sentaient moins mêlés par ce qu'on offrait au fédéral, et les valeurs politiques des partis étaient bien définies. Est-ce qu'on a perdu ça?
Ben, d'une certaine façon, oui, et d'une certaine façon, non. Ça veut dire, quand on regarde du point de vue conservateur, je pense qu'on ne l'a jamais perdu. Ça veut dire le fait que l'équilibre budgétaire est important pour les conservateurs. Ça l'était sous Stephen Harper. Ça l'était. C'est le message également que Pierre Poilievre donne.
Mais sans réelle projection, sans réelle stratégie, du moins de Poilievre, là, moi, je ne vois pas vraiment.
Non, mais parce qu'on ne connaît pas les chiffres, là, ça veut dire. Là, tout d'un coup, comme ça, on sort 20 milliards de plus. Ça veut dire, moi, je ne sais pas quand il va arriver à la fin de son mandat, Justin Trudeau. C'est très difficile pour un chef de l'opposition, que ce soit Pierre Poilievre ou un autre gouvernement, un autre parti, de se dire, mais attendez, là, il faudrait que je sache à la fin, ça va arriver jusqu'où, la dette? Parce que chaque année, ça augmente. Le problème, c'est que avant là, l'équilibre budgétaire, ça existait chez les libéraux. Jean Chrétien a fait un équilibre budgétaire. Paul Martin, avant, ça existait, cette rigueur en termes de rigueur économique.
Pourquoi on s'en fout maintenant?
Mais on s'en fout parce que Justin Trudeau a changé l'identité du Parti libéral. Ça veut dire que le Parti libéral actuellement est devenu un Parti libéral de gauche, ce qui n'était pas le cas avant. Et maintenant, c'est devenu un gouvernement libéral à la merci du NPD. C'est un gouvernement rouge-orange ou orange-rouge. Et c'est ça la différence. Avant, il n'y avait pas trop de différence en termes de fiscalité ou de budget entre les conservateurs et les libéraux en disant, écoutez, au bout d'un moment, là, la carte de crédit, elle est loadée, il va falloir qu'on regarde un équilibre budgétaire, tandis que Justin Trudeau a changé ça. Et c'est ça qui est drôle. Regarde, même en 2015, puis je reviens en arrière, en 2015, quand le NPD était sous Thomas Mulcair, il parlait aussi d'équilibre budgétaire, tandis que maintenant, bien évidemment, le NPD n'en parle plus, les libéraux n'en parlent plus du tout. Donc, je pense que c'est ça. Puis je comprends que les gens sont mêlés d'une certaine façon parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils se sont dit, mais ça, c'est pas l'identité du Parti libéral.
Puis du côté du provincial, on semble aussi avoir un laisser-aller du côté du déficit avec le budget de la Coalition Avenir Québec, la CAQ récemment. On a l'impression que c'est peut-être un pouls de population. Est-ce que c'est rendu des chiffres tellement gros pour tous et chacun qu'on ne s'y intéresse pas et donc le politique se dit, bah, on n'ira pas jouer là-dedans?
Oui, d'une certaine façon, oui. J'ai l'impression que collectivement, on prend la rigueur ou on prend juste l'équilibre budgétaire, mais à la fin de la journée, toi, moi, tout le monde, on est obligé de payer. Puis on sait que si on paye juste le minimum sur la carte de crédit, bien, ça va être longtemps pour la rembourser, la carte de crédit. Donc, je pense qu'à la fin, il faudrait avoir une certaine forme de gestion de bon père ou mère de famille, parce que l'État ne peut pas juste comme ça dépenser, dépenser, dépenser. Surtout, on parle d'équité générationnelle. Ben, ça va être quoi qu'on va laisser à la fois au Québec puis à la fois au Canada en termes de qu'est-ce qu'on va laisser comme legs à l'autre génération quand on a trop dépensé. Oui. Et c'est même pas des fois, à la fin, ça dérange pas de dépenser. Mais moi, je demande aux gens, est-ce que tu as l'impression que les services ont augmenté? Parce que, à ce que je sache, le gouvernement fédéral, il ne sait même pas faire un passeport. Puis, ils dépensent comme des fous. Donc, je me dis, il y a un petit problème
ben,
quand
c'est
même
ça.
En termes de gestion.
Est-ce que c'est encore possible d'atteindre l'équilibre budgétaire tout en conservant des services, en subventionnant des programmes sociaux puis d'améliorer efficacement le tissu social en général?
Oui, moi, je pense que c'est possible quand on a des bonnes priorités et quand, par exemple, on n'augmente pas la fonction publique de 100 000 personnes à Ottawa, comme Justin Trudeau l'a fait, sans qu'on remarque qu'il y a une amélioration des services. C'est des choses comme ça. Écoute, tous les jours maintenant, quand on fait pas une application à Rivcan qui devait coûter 80 000 $ et qui coûte 60 millions de dollars, ben ça, c'est du gaspillage. C'est pas une question de couper dans les programmes ou quoi que ce soit. C'est juste de la mauvaise gestion.
Très intéressant. Merci beaucoup, Rodolphe Osny, commentateur politique et ex-conseiller au gouvernement Harper. C'est un bonheur de vous avoir eu sur nos ondes.
Merci, bonne journée.
Au plaisir. Ça fait tellement réagir. C'est intéressant d'avoir cet angle-là ce matin. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires à apporter, mais vous avez fait rougir Twitch, vous avez fait rougir également les textos. Je vais en lire quelques-uns. Quelqu'un qui dit un truc que notre gouvernement pourrait faire, ce serait d'imposer les gros gains à la loterie. Je serais curieux de savoir comment on pourrait récupérer à ce niveau-là. Quelqu'un qui dit un des exemples d'investissement immobilier que j'ai lu dans les nouvelles, c'est que les couples allaient payer 28 000 $ de plus sur un investissement de 140 000 $ qu'ils vont vendre 750 000 $. Il va leur rester dans leur poche 582 000 $ au lieu de 610 000 $. C'est pas la fin du monde. Ça dépend. Si c'est ta seule... Ben en fait, c'est l'investissement que tu as choisi pour assurer ton futur et ta retraite. Oui, ça fait une bonne différence, le 100 000. Et maintenant, on dit... auparavant, je me rappelle, j'avais une conversation avec quelqu'un qui était dans... Je pense à 50... Non, à la soixantaine, à ce moment-là. Et puis, moi, j'avais début 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans. Puis, on me disait, au moins un demi-million de dollars, un million de dollars, si t'es capable d'avoir ça dans tes coffres pour ta retraite, tu seras en masse libre de faire tout ce que tu veux sans avoir de casse-tête, sans nécessairement avoir un rythme de vie effréné. Là. Mais ça a changé. Pensez-y, vous gagnez un million de dollars demain là, à la loterie, justement. Il y a une loterie, un gros montant à la fin de la semaine. Ça va vite, là. Ça va très, 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 très vite. 100 000 $, tu ne fais plus grand-chose avec ça. Là, vous allez dire, oui, tu peux t'acheter quelque chose. Ça fait une différence aussi dans le stress et autres, je comprends. Mais est-ce que tu peux t'épivarder? La réponse, c'est non. Donc, peut-être pour ces gens-là qui ont choisi l'immobilier comme assurance pour la suite et que là, un gouvernement arrive avec des mesures fiscales de ce type-là et change complètement la donne, bien... Ça va jouer. Pensez-y à des gens qui ont économisé toute leur vie, qui leur reste 10 ans finalement pour économiser. C'est rien 10 ans pour économiser. De votre vingtaine à votre trentaine, avez-vous assez mis d'argent de côté? En avez-vous encore assez de côté? Est-ce que vous avez été capable de prendre un devant là-dessus? Pas certaine, parce que justement, les années vont vite. Mais les dépenses aussi. Quelqu'un qui dit, de mon côté, je cesse la production laitière, mais je vais investir dans une autre production et mon ami Trudeau va m'enlever une partie de la vente de mon quota que je pourrais réinvestir. Après, on se demande pourquoi il n'y a plus de gens qui veulent faire des projets d'envergure dans notre pays. Pierre, qui est quand même très concerné par ça, l'agriculture en mange une claque infernale depuis des années. C'est impressionnant, même qu'on ne fait pas nécessairement redorer ce métier-là, puis on ne prête pas assez d'intention aussi aux agriculteurs qui ont des quotas, des investissements massifs monétaires dans leur structure, dans leur infrastructure, mais que ça vaut pas nécessairement l'argent escompté si personne n'a le budget pour racheter ce qui vaut des millions de dollars. Non, c'est impressionnant ce qui se passe. Puis on va essayer d'avoir un petit peu plus de place dans leur CV au courant des prochains mois pour s'assurer qu'on suit le dossier comme il faut. Et Malajube, dans vos oreilles, c'est maintenant avec Radiologie à Boulevard 102.1. Vous savez, vous pouvez commenter au 418-971-1021 ou encore sur Twitch sur le sujet ou n'importe quel autre. Merci d'avoir choisi leur CV.
CV avec Pascal CV.
On est de retour à l'émission. C'est sûr que ça vous fait réagir hein, quand on parle d'économie, puis que ça va autant dans nos poches. Puis je veux dire, dans nos petites poches, c'est quand on pense qu'on s'en va dans une strate de la population qui en a un peu plus. Il y a des gens qui font avec, puis qui se disent, bon, ben, c'est une bonne chose. Et pour eux, 20 $ c'est pas la même chose que notre 20 $ Mais ça reste que. Il y a une réflexion qu'on avait en groupe ici à l'émission hier, c'est est-ce qu'on est en train au-delà de ce qu'on vient de jaser avec Rodolphe Hosting, vous allez reprendre sans problème au boulevard.fm un peu plus tard dans la section leur CV. Est-ce qu'on est en train de dire aux gens qui font les choses autrement, s'occupent d'eux-mêmes par eux-mêmes, qui vont avec des investissements, des économies, qui travaillent très fort de leur côté, que ça ne vaut pas la peine, au final, qu'on va aller piger dans vos poches? Est-ce qu'on est en train de demander aux Québécois, aux Canadiens de rester un petit peuple économique? Ça, c'est une question qu'on a reçue dans les dernières minutes. Je vous rappelle que Louis Mathieu est derrière la console, c'est notre stagiaire. Vous allez l'entendre dans les prochaines journées avec nous dans leur CV. Dès demain, on va lui donner un petit mandat. Donc, si vous voulez le saluer, c'est autant sur Twitch et le voir aussi, parce que c'est phénoménal. Là. Quelqu'un de 8 pieds 4, on ne voit pas ça souvent. C'est sûr que là, il est assis, mais il va se lever là, prochainement, puis vous allez pouvoir voir à quel point il est grand. Sa tête touche le plafond ici. Qui dit mieux? 8 et 4, y a-t-il quelqu'un dans l'assistance qui bat ça? En nouvelle, il y a plusieurs choses à dire. Des nouvelles qui m'a percuté aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a personne qui a été affecté par ça. C'est les lunettes d'éclipse qui ont été vendues par Canadian Tire qui n'étaient pas conformes. Les doutes de la Fédération des astronomes amateurs du Québec étaient fondés. Ces lunettes-là qui étaient vendues, c'est celles qui étaient un peu mauve, bleue, avec un cercle au centre, puis qui était écrit éclipse solaire là, entre les deux yeux. C'était pas conforme. Et on les a analysées après, finalement, la dite éclipse. Donc, c'est particulier. Mais c'est dans la presse ce matin, il y a un professeur d'optométrie qui est un peu concernés par tout ça. On dit, enfin, quand vous regardez le soleil à travers ces filtres-là, de ces lunettes-là, vous constatez que l'image du soleil est plus brillante que ce que vous obtiendriez avec des filtres conformes à la norme. Normalement, tu ne vois pas grand-chose. Donc, il y a peut-être des gens qui vont lire l'article et se demander s'ils veulent faire un recours collectif. Ça, c'est peut-être quelque chose qui pend au bout du nez de quelqu'un. Consommateurs qui ont acheté ces lunettes-là. On va voir en fait comment ça sera pris par la communauté, mais elles ne sont pas conformes et c'est ce que la Maison de l'astronomie déclare. Avez-vous encore la paire à la maison? Avez-vous encore votre facture? C'est peut-être quelque chose qui va vous servir, mais c'est très popularisé aujourd'hui, cette nouvelle-là. Plus près de chez nous, le Mont-Sainte-Anne, on va-tu le sauver? Est-ce qu'on va sauver le Mont-Sainte-Anne, magnifique montagne dont on est très heureux d'avoir ici dans la région? Là, il y a un groupe de franco-suisses qui est prêt à investir 100 millions de dollars. On a parlé un peu dans les dernières semaines de ces rumeurs-là de gens qui voulaient justement le sauver. Mais l'entreprise a officiellement rencontré le gouvernement. On a fait une proposition écrite. On propose de reprendre les opérations de la station qui sont entre les mains, je vous rappelle, de Resort of the Canadian Rockies en ce moment et qui, de ce qu'on peut lire entre les lignes, soit se foutent du Mont-Sainte-Anne ou encore n'en font pas leur priorité. Peut-être que c'est pas mal moins payant que plusieurs montagnes dans l'Ouest, mais chose certaine, il y a une décrépitude. Il y a eu des problèmes aussi avec les télécabines. Problème plus que ça fonctionnait pas une journée, genre une télécabine qui tombe au sol. Mais on veut s'engager à investir 100 millions de dollars du côté de ce groupe-là, franco-suisse en fait, dans les prochaines années. Donc, Stoneham est aussi au cœur de la vision de ce groupe-là qui possède déjà le Mont Grand Fond dans Charlevoix, le Mont Lac Vert au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis on a certains spécialistes qui commentent la chose. Rendu là, est-ce que c'est aux mains de n'importe qui qu'on doit laisser aller le Mont-Saint-Anne? La réponse est non, mais certainement, il faut que ça tombe entre les mains de certaines personnes qui ont à cœur la montagne et qui veulent pousser plus loin cette offre de service et surtout la rendre très sécuritaire. Le prix de l'essence, ça a grimpé. Vous l'avez ressenti dans vos portefeuilles. Vous l'avez vu aussi sur les panneaux lumineux. Les automobilistes canadiens sont confrontés aujourd'hui à une hausse subite. On ne l'avait pas vu venir du prix de l'essence. Plusieurs stations service qui offre cette essence-là à plus de 1,90. On se demande pourquoi. C'est des prix qui représentent un sommet en 2 ans dans tout ce qui est est du Canada et on prévoit que le prix à la pompe devrait connaître une baisse d'environ 4 cents du litre dans la plupart des villes québécoises et ontariennes à partir des prochaines heures. Mais quand même, aujourd'hui, si vous avez à mettre de l'essence, c'est plus cher. Il y a des affrontements, vous le savez, il y a des tensions, il y a de la nervosité dans les marchés. Au final, partout à l'international, bien, ce qui se passe, ça joue sur la matière première, le pétrole brut, ça joue sur les marchés mondiaux, puis on a la mauvaise habitude d'escompter ce qui peut arriver, puis c'est un peu le résultat là, dans vos stations d'essence aujourd'hui. Rappelons que les policiers de la Sûreté du Québec craignent pour la vie d'un motocycliste dans la vingtaine. Il a été happé hier par une voiture à Portneuf. Là, c'est le temps d'en parler. Hein. Les motos vont sortir. Le printemps est là. les rues ne sont pas particulièrement propres en ce moment. Ça, ça peut causer des désagréments dans la conduite, mais il faut, en tant qu'automobiliste, redoubler de prudence. C'est une des raisons pourquoi, moi, la moto n'a pas fait partie de ma vie dans la dernière année. Que ce soit les textos au volant qui ont augmenté. Tu passes en moto, si la tienne ne fait pas un gros bruit de Harley, tu ne te fais pas voir. Les angles morts, c'est comme si c'était rendu optionnel. La lumière ne va pas toujours clignoter. Mais sachez que ça vient vraiment anxiogène quand tu fais de la moto, ce qui est un magnifique sport, ce que je veux faire pendant longtemps encore dans ma vie, mais qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est, comment dire, partagé sur la route. C'est-à-dire que toi, tu es au volant de ta voiture, si tu n'as jamais fait de la moto, tu ne comprends pas c'est quoi le sentiment d'être libre, mais aussi très, 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 très à risque. Texto au volant, changer la musique, ne pas faire ses angles morts, pas enlever ses clignotants, pas mettre ses clignotants, ça peut jouer un rôle important dans tout ce qui se passe sur nos routes. Donc, ils seront de retour, bien sûr, dans les prochaines journées sur les réseaux routiers de Québec et de partout. Donc, soyez un petit peu plus à l'affût si vous êtes automobiliste. Gardez une distance aussi avec la moto qui est devant vous et derrière vous. Mais bon, à Portneuf, il y a un accident important. C'était sur la rue Provencher. C'est près d'une bretelle d'accès pour l'autoroute 40 Ouest. Collision qui a impliqué cette motocyclette et une automobile et qui nous rappelle à quel point c'est important de faire attention. Le jeune homme est au centre hospitalier, repose dans un état critique. On souhaite que tout se replace assez rapidement. Merci. On prend une courte pause en nouvelles. Bien sûr, on va les suivre tout au long de la journée. Il y a Yannick Marceau qui s'en vient pour Marceau Midi dans un instant. Nous, on va conclure l'émission de l'autre côté de It's Sal et Fortune Cookie Club. Honnêtement, autant l'original que cette reprise-là est excellente. Levez le son, surtout si vous êtes en voiture à l'extérieur. It's Sal à Boulevard 102.
Avec Pascal Cévé.
C'est allé vite aujourd'hui. Oui, on a pris du temps pour parler de ces faux riches-là qui seront impactés par le nouveau budget fédéral. On en a oublié la citation, le proverbe quotidien. Vous me l'avez dit en masse, je m'excuse, c'est de ma faute. Proverbe d'aujourd'hui, je l'avais sorti en plus. C'en est un africain, souvent très, très humain, les proverbes africains, qui font réfléchir. Le voici. « Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. » Êtes-vous d'accord? Êtes-vous en désaccord? Est-ce que c'est difficile pour vous d'être heureux? Est-ce que vous êtes capable de contempler les petites choses qui vont en dehors, de vous arrêter? Là est la question. Mais ce proverbe africain est une gracieuseté des Africains. On s'en va pour terminer l'émission dans ce jeudi extrait du web. Bien du fun à aller vous en choisir aujourd'hui. Je suis retournée dans ce qui me faisait penser à les émissions que ma grand-mère écoutait quand j'allais chez elle. C'était toujours des animateurs qui questionnaient des enfants, mais souvent, quand ils questionnaient des enfants, c'était par rapport à la mère de ceux-ci. Donc, finalement, c'était des émissions louches, mais je me souviens que ma grand-mère trouvait ça tellement cute d'entendre les jeunes parler. Et il y en a un plateau de télé français comme ça qui se déroule et qui accueille Jocelyn le Terrible. On l'écoute se faire questionner par l'animateur en question.
Rosemary.
Oh, quel joli nom! Elle travaille, Rosemary?
Sa mère.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait comme travail?
Elle a un patron.
Ah! Et il est gentil, ce patron?
Oui, elle lui donne des sous.
Ah bon? Alors, toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras un grand garçon comme métier?
Conduiseur de motocross.
Conduiseur de motocross. Qu'est-ce que c'est comme métier?
Faut lever la route devant.
C'est aussi simple que ça. Lui, ce qu'il veut faire dans la vie, c'est être conduiseur de motocross, comme il dit, puis il faut lever la roue de devant. C'est le fun d'entendre tout ce qui est enfantin. Hein? On est tellement dans la non-réflexion, puis la jovialité, le brut de l'enfance, mais c'est ça. Il y a toujours des animateurs qui questionnent beaucoup trop sur les mamans. Je le comprends pas. On dirait une mauvaise émission de speed dating quand la mère est dans l'assistance. Parlant de Vox Pop, de questions qu'on pose aux gens, d'amour, de speed dating, je suis tombée sur un couple où on a questionné le pourquoi ils se sont choisis, mais ils ont fait leur vie ensemble, je vous le jure.
Et j'ai pu apprécier ses qualités. Je ne me suis pas trompé, la preuve. J'ai vu que c'était une travailleuse, j'ai vu qu'elle était gentille, qu'elle était douce, facile à manier. Enfin, j'ai constaté une chose, que c'était peut-être ta femme qu'il me fallait.
On dit toujours que tu n'es pas gracieux, hein?
Lui, il dit que sa femme était facile à manier et c'est pour ça qu'il l'a choisi. Puis cette femme-là a dit « J'ai toujours dit que tu n'étais pas très gracieux. » Ouais, on se demande pourquoi. Et une autre femme qui va nous parler d'une peine d'amour. Tu sais, on se dit, on passe à travers une peine d'amour. Ça peut être violent, ça peut être difficile, ça peut être destructeur. Elle a peut-être des conseils pour nous. Est-ce qu'elle, elle a vécu une peine d'amour?
De séparer, on a eu du chagrin tous les deux, mais c'était pas réparable.
Et vous avez réussi à vous en remettre avec le temps?
Difficilement, on n'oublie jamais, on n'oublie jamais.
Vous auriez des conseils à donner aux plus jeunes générations concernant les relations?
Ils doivent faire leur expérience, les pauvres, et puis s'en tirer suivant leur cœur, leur intelligence, leur bon sens. Aucun conseil à donner, je n'ai fait que des bêtises.
Alors, c'est assez direct. Vous n'allez pas vous remettre d'une peine d'amour. Ça va être difficile. Vous allez toujours lui penser. Et elle n'a aucun conseil à vous donner parce que ben, elle ne fait que des bêtises. Faites-en. Faites-en en masse des bêtises, mais soyez un petit peu plus optimiste dans vos cœurs. Hey, c'est tout pour l'heure CV. C'était les petites perles du web de cette semaine. Merci d'avoir été là. Si vous avez commentaires, suggestions ou autres, c'est comme d'habitude au 88-971-1021 sur n'importe quel des réseaux sociaux de BLVD-1021 ou les miens, Pascal CV. Un bonheur de vous avoir accompagné. Marceau le midi, ça commence dans un instant. Yannick s'en vient avec Tom Gauthier. Passez donc une belle journée. C'est tout ce que vous méritez. 102.